Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, le coin diplomatique, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par les journaux. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements informés entre autres. Paris est prête à accueillir les Jeux Olympiques malgré les protestations des habitants en raison des fermetures de routes. Trois légendes du badminton deviennent mentors pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Soutenant la Cour internationale, l'Indonésie exige la fin de l'occupation de la Palestine. Aucun citoyen indonésien n'a été victime des attaques israéliennes contre les ports yéménites. IKN dispose déjà de sources d'eau brute. Le ministère de l'Investissement s'assure que la Papouasie est prête à organiser la Journée nationale de l'enfance. Et l'entreprise d'État BUMN fournit des dividendes à l'État de 85,50 billions de roupies. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Le président du Comité olympique de Paris, Tony Estanguet, a déclaré que la ville de Paris était prête à organiser les Jeux olympiques malgré les plaintes de certains habitants et entreprises concernant l'impact de l'événement. Cité par l'AFP dimanche 21 juillet, Tony a déclaré que les sites de la ville de Paris étaient en train d'être finalisés et que des milliers d'athlètes et d'officiels arrivaient. Tandis que le temps s'améliorait également après des mois de pluie. Autre point positif pour les organisateurs, la qualité de l'eau de la Seine qui sera utilisée pour les épreuves olympiques de natation en plein air. C'est également considérablement amélioré depuis début juillet. Cette rivière sera le lieu de la cérémonie d'ouverture vendredi prochain. 6 000 à 7 000 athlètes navigueront sur 85 barges et bateaux. Tony a déclaré que ce serait principal d'athlétisme. Il estime que jusqu'à 300 000 spectateurs munis de billets assisteront à l'événement depuis les tribunes et les berges de la rivière et 200 000 autres depuis les appartements donnant sur la rivière. Il a également révélé qu'il restait encore environ 4 000 billets disponibles. L'équipe indonésienne de badminton entame sa huitième journée de camp d'entraînement à Chambly, en France. Trois légendes indonésiennes du badminton étaient présentes à Chambly pour apporter leur contribution en amont des Jeux olympiques de Paris 2024. Cité dimanche par RRI.co.id, Tontoi et Liliana ont été désignés pour être les mentors de l'équipe ad hoc du PBSI, c'est l'association de badminton indonésienne, pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Grecia Poli, en tant que mentor, Tontoi a admis qu'il était fier et qu'il espérait que sa présence serait bénéfique pour le secteur indonésien du double mixte. Pendant ce temps, Liliana a également partagé ses expériences avec les athlètes olympiques. Elle a souligné l'importance de la concertation et de la stratégie pour affronter le match. Semblable à Liliana, Grecia Poli, qui est également mentor, a souligné l'importance des objectifs et de la concentration pendant le camp d'entraînement. L'expérience de Grecia aux Jeux olympiques de Tokyo de 2020 pendant la pandémie de COVID-19 a fourni de précieuses leçons sur l'importance de l'entraînement mental. À cette époque, l'incertitude et le fardeau psychologique étaient les plus grands défis. La Cour internationale de justice, CIJ, a publié une fatwa juridique qui souligne qu'Israël doit immédiatement mettre fin à son occupation illégale du territoire palestinien. Dans une déclaration du ministère indonésien des Affaires étrangères reçue par RRI Voice of Indonesia dimanche 21 juillet, la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Ratno Marsudi, a déclaré que la décision de la CIJ montre sa position de soutien au peuple palestinien. Ratno Marsudi espère que d'autres pays ne soutiendront pas les actions israéliennes d'occupation de la terre palestinienne. Conformément à la fatwa, l'Indonésie a encouragé Israël à arrêter immédiatement la construction des colonies illégales et à évacuer tous les colons juifs du territoire palestinien non occupé. Le ministère des Affaires étrangères a confirmé qu'aucun citoyen indonésien n'a été victime des attaques aériennes israéliennes sur le port de Hudaybah au Yémen le week-end dernier. Cité par Antara dimanche 21 juillet, le directeur de la protection des citoyens indonésiens et des personnes morales indonésiennes au ministère des Affaires étrangères, Yuda Nugraha, a déclaré dans un court message que l'ambassade indonésienne à Mascate avait communiqué avec des citoyens indonésiens vivant dans la région de Hudaybah. À ce jour, aucun citoyen indonésien n'a été victime d'attaque. D'après les informations fournies par l'ambassade indonésienne à Mascate et dans une déclaration du ministère de la Santé affiliée au Houthi, 19 citoyens indonésiens vivent dans la région de Hudaybah. Pendant ce temps, le rapport de l'AFP a déclaré que l'autorité sanitaire Houthi a déclaré que 6 personnes avaient été tuées et 83 personnes blessées à la suite de l'attaque israélienne. Le président du groupe de travail sur le développement des infrastructures de la capitale nationale indonésienne, Nusantara, Dhani Sumadilaga, a déclaré dimanche 21 juillet qu'à IKN, il existe déjà une source d'eau brute qui est prête à être distribuée dans la zone d'IKN et ses environs, y compris la prise d'eau de Sepaku et le barrage de Sepaku Semoy. Il a expliqué que techniquement, la capacité de la prise d'eau de Sepaku est de 3000 litres par seconde, tandis que celle du barrage de Sepaku Semoy est de 2500 litres par seconde. Plus tôt, lors d'une visite à IKN dont l'on a vu directement vendredi l'état de la prise de Sepaku dans l'IKN. Denise a déclaré que pour la première phase, la source d'eau brute qui serait utilisée provenait de la prise de Sepaku. Concernant l'accès routier, Denise a expliqué que la route à péage de Balikpapan à Ikaen devrait être opérationnelle le 17 août 2024. À savoir que le ministère du BUPR construit les routes à péage 3A, 3B et 5A, qui ont actuellement une portée moyenne de 90%. Le ministre de l'Investissement de la République d'Indonésie, chef du Conseil de coordination des investissements BKPM, Bahlil Hadalia, a déclaré que le point culminant de la commémoration de la 40e journée nationale de l'enfance qui se tiendra à Istora Papua Bangkit Sentani Jayapura, Papouasie, le 23 juillet 2024 aura lieu, cité par Antara, lundi 20 juillet. Bahlil, dans sa déclaration officielle à Jakarta, a déclaré que plus tard, le point culminant du 40e événement de Journée nationale de l'enfance auquel ont participé le président Joko Widodo et la première dame Iriana serait également diffusé à la télévision nationale. Afin que le point culminant de la commémoration puisse être apprécié par les enfants de toute l'Indonésie. Auparavant, Tri Tito Karnavian, président général de l'Organisation d'action de solidarité avancée de l'ère du cabinet indonésien, OAS Kim, en Papouasie, vendredi 19 juillet, a exprimé son appréciation pour le ministre de l'Investissement qui était également conseiller dans la supervision de cette activité. Il espère également que l'événement pourra être organisé avec succès et pourra transmettre un message à l'ensemble de la communauté selon lequel les événements nationaux peuvent être bien organisés. En Papouasie. Le ministre des entreprises d'État BUMN, Eric Toyer, a déclaré que les entreprises d'État fourniront à l'État des dividendes en 2024 s'élevant à 85,52 billions de roupies, cité dimanche via son compte Instagram officiel @EricToyer. Eric a expliqué que le dividende total de 85,52 billions de roupies provenait de l'entreprise d'État BUMN. Les trois plus grandes entreprises publiques étaient Bank Rakyat Indonesia SA avec 25,7 billions de roupies, Bank Mandiri SA 17,1 billions de roupies, Mineral Industries Indonesia SA avec des dividendes de 11,2 billions de roupies. Bon, chargeur et tard, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
Thank you. Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « En attendant la réponse du monde à l'avis consultatif de la CIJ ». La Cour internationale de la justice, CIJ, a rendu vendredi son avis consultatif sur les conséquences juridiques de la politique et des pratiques israéliennes dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Auparavant, le 30 décembre 2022, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution demandant à la CIJ de donner son avis sur les conséquences juridiques de violations commises par Israël contre les Palestiniens. Cela inclut la politique et les pratiques d'Israël qui affectent le statut juridique de l'occupation, non seulement pour lui-même, mais aussi pour toutes les nations et les Nations unies. Dans l'avis consultatif de vendredi 19 juillet 2024, la CIJ a conclu que l'existence perpétuelle d'Israël en Palestine constituait une violation de droit. Israël doit mettre fin immédiatement à sa présence illégale en Palestine. Israël doit cesser toutes ses activités dans la nouvelle colonie du territoire palestinien occupé. Israël est également tenu de compenser toutes les pertes subies par la personne ou l'entité juridique située sur le territoire palestinien. À son avis, la CIJ a déclaré que toutes les nations ne doivent pas reconnaître comme légitime toute situation résultant d'une violation de la loi. Aucune nation ne doit apporter son soutien pour permettre que la violation se poursuive. Cela s'applique également aux organisations internationales, dont les Nations Unies. La CIJ a également demandé à l'Assemblée générale des Nations Unies d'envisager les modalités appropriées et les suivis nécessaires pour mettre en œuvre l'avis consultatif et mettre fin à la présence illégale d'Israël dans le territoire palestinien occupé. L'avis de la Cour internationale de justice était rendu lorsqu'Israël bombardait encore brutalement Gaza et tuait près de 39 000 Palestiniens. L'avis consultatif de la CIJ a rappelé au monde qu'il existe un droit international fort et contraignant défendu par le monde pour réglementer l'occupation territoriale et les crimes de guerre. En plus d'être une étape importante dans l'histoire de la lutte de la Palestine, l'avis de la Cour internationale de justice était le premier pas vers l'indépendance totale de la Palestine. Toutes les nations doivent se conformer à cet avis et ont donc exhorté l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre les mesures et décisions appropriées pour mettre fin à l'existence illégale d'Israël en Palestine tout en reconnaissant l'État de Palestine. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de l'histoire d'aujourd'hui. Avec Maudry, nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 22 juillet 1963, lorsque le Sarawak a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne. Serge Vétard, le 22 juillet 1963, le Sarawak a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne. Après cela, la région est devenue l'un des membres fondateurs de la Fédération de Malaisie, créée le 16 septembre 1963. Cependant, l'Indonésie s'est opposée à la fédération, ce qui a conduit à l'affrontement indonésien-malaisien pendant 3 ans, de 1960 à 1990. Le Sarawak a connu une rébellion communiste. Avant l'indépendance, les zones côtières du Sarawak étaient sous l'influence de l'Empire du Brunei au VIe siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Sarawak fut occupé par le Japon pendant 3 ans. Après la fin de la guerre mondiale, le dernier Raja blanc, Charles Wiener Brooke, céda le Sarawak aux Britanniques et en 1946, la région devint une colonie de la couronne britannique. Chers auditeurs, nous continuons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 20 juillet 2001. Une bombe a explosé dans l'église Santa Ana de Jakarta. Les attentats à la bombe contre l'église de Santa Ana et le HKBP Jatiwaringin étaient des attentats à la bombe perpétrés par un réseau terroriste contre l'église de Santa Ana et l'église protestante Huria Kristen Batak HKBP Jatiwaringin Jakarta le dimanche 20 juillet 2001. Vers 7h05, heure locale du matin, une bombe a explosé à l'intérieur de la salle de l'église Santa Ana. Presque au même moment, vers 7h, heure locale, la bombe a également explosé sur le parking de l'église protestante Huria Kristen Batak HKBP Jatiwaringin. À la suite de l'explosion, 5 membres de l'église catholique de Santa Ana sont morts. Serge Etard, nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 20 juillet 2014. La Commission électorale générale nomme Joko Widodo et Yusuf Kalla, président et vice-président de la République d'Indonésie. Serge Etard, le 20 juillet 2014, la Commission électorale générale a nommé Joko Widodo et Mohamed Yusuf Kalla comme président et vice-président élus pour la période 2014-2019, à partir des résultats de l'élection présidentielle indonésienne et 2014. Cette paire a remporté 53,15% du vote national, battant ses adversaires Prabowo Subianto et Hatta Rajasa, qui ont remporté 46,85% des voix. Joko Widodo et Mohamed Yusuf Kalla ont été investis en tant que président et vice-président élus. Le 20 octobre 2014, cette élection était la troisième élection présidentielle directe en Indonésie. Bon, chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui. I could stick around and get along with you. You know that I'll be with you. I'll come around and see you once in a while, or if I ever need a reason to smile. Every now and then I'm insecure. Let me show you life can be so pure. Oh. You're so fine, being on my mind. Get nervous every time, and I can barely make a sound. Whenever you're around, you're so fine, being on my mind. Get nervous every time, and I can barely make a sound. Let me show you life can be so.
Voilà la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz
et 4755 kHz.
Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers amis de l'antenne, pour la suivante, voici donc mon Indonésie, ayant pour le titre « L'Indonésie exhorte Israël à mettre fin à son occupation illégale de la Palestine ». La Cour internationale de la justice, CIJ, a décidé que la présence d'Israël dans le territoire palestinien occupé est illégale et doit cesser immédiatement. Plusieurs pays ont réagi à l'avis juridique rendu par la CIJ le 19 juillet. L'Indonésie a salué le verdict de la Cour internationale de justice sur les actions d'Israël dans le territoire palestinien occupé le 19 juillet. Via le réseau social X, le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie a déclaré dimanche 21 juillet que la décision judiciaire avait répondu aux aspirations de l'Indonésie et de la communauté internationale à rendre justice à la Palestine. La Cour a rempli son rôle de maintien de l'ordre international fondé sur des règles en déterminant le statut illégal de l'existence d'Israël dans le territoire palestinien occupé. Par conséquent, l'Indonésie soutient le point de vue de la Cour selon lequel tous les pays et les Nations Unies ne reconnaissent pas la situation résultant de l'existence illégale d'Israël. Conformément au verdict de la Cour, l'Indonésie exhorte Israël à mettre immédiatement fin à sa présence illégale dans le territoire palestinien occupé. Israël doit mettre un terme à la construction illégale de colonies et évacuer immédiatement toutes les colonies juives. L'Indonésie encourage également l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de sécurité à répondre à l'appel de la Cour à prendre des mesures appropriées pour mettre fin à la présence illégale d'Israël en Palestine. L'Indonésie appelle la communauté internationale et l'ONU à donner suite conjointement à la décision juridique et à reconnaître l'existence de l'État de Palestine. Cela fait suite à une déclaration orale faite par le ministre indonésien des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, devant la Cour internationale de justice le 23 février. La communication orale de l'Indonésie comporte deux aspects principaux. Premièrement, en termes de compétences, le ministre indonésien des Affaires étrangères a affirmé que la Cour internationale de justice a le pouvoir de rendre un verdict juridique. Deuxièmement, sur le fond, le ministre indonésien des Affaires étrangères a souligné que les diverses politiques israéliennes étaient contraires au droit international et en a exposé les conséquences juridiques. À la fin de sa déclaration orale, Retno Marsudi a souligné qu'aucun pays n'est au-dessus des lois. Tout être humain, sans exception, est protégé par la loi. Elle a également souligné que la communauté internationale ne devrait pas permettre à Israël de poursuivre ses actions illégales. C'est du retard, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
menemani cinta membawa kisah kita.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz
et 4755 kHz.
Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers auditeurs, la cascade de Srambang est située sur les pentes du Mont Lawi, village de Girimulyo, district de Jogorogo, présence de Ngawi, Jawa Oriental. La cascade se trouve au milieu d'une forêt de pins gérée par l'unité de gestion forestière de Lawu à environ 40 km du centre-ville de Ngawi. La hauteur de la cascade atteint 25 mètres. Pour se rendre dans le district de Jogorogo, la résidence de Ngawi n'est pas difficile. La zone est accessible depuis deux directions, à savoir Madiun, Ngawi, Jogorogo, ou peut également être depuis Sragen, Java Central, Ngawi, Jogorogo. En effet, le Mont Lawu est une zone frontalière entre les provinces de Java Oriental et de Java Central. Les touristes peuvent toujours utiliser le véhicule privé ou les transports en commun jusqu'au sous-district de Jogorogo, car la route a été goudronnée. Pour atteindre la cascade de Srambang, les touristes doivent passer des routes de village donc pavées. Sur le site touristique de la cascade, les visiteurs peuvent pratiquer diverses activités telles que se promener tout en profitant de la beauté et de la nature, ressentir la fraîcheur de la cascade et prendre des photos dans divers sites touristiques. Après vous être senti fatigué en vous promenant sur le site touristique et en essayant divers spots photos, vous devriez vous détendre un moment à la cascade de Srambang. Se baigner dans la cascade de Srambang rend le corps et l'esprit plus frais. On pense que se baigner dans la cascade de Srambang maintient la jeunesse et prolonge la vie. La zone de cascade de Srambang est ouverte de 8h à 18h. Pour rendre vos vacances mémorables, évitez de venir à la cascade de Srambang pendant la saison des pluies, par crainte des glissements de terrain. Si vous revenez trop tard dans la nuit de la cascade de Srambang ou si vous souhaitez néanmoins voyager plus longtemps ici, vous pouvez trouver un hôtel à proximité de l'emplacement de cette cascade. Chers auditeurs et chers auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir avec comme titre « La cascade de Srambang dans Java Oriental ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs,
vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bon. Bonsoir tous les amis. On se retrouve dans l'émission Parlons l'Indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Di Bau Bau. Di Bau Bau signifie à Bau Bau. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Bagaimana ceritanya? Je répète, Bagaimana ceritanya signifie comment est l'histoire? C'est une conversation entre Chris, un vlogueur australien, et un guide de force du palais de Bouton à Bau Bau, la province de Sulawesi du Sud-Est. Chris a répondu aux informations du guide sur les pierres sacrées de la forteresse du palais de Bouton. Écoutons le dialogue.
Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Bouton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Bouton menginjakan kaki.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Bagaimana ceritanya? Je répète, bagaimana ceritanya signifie comment est l'histoire. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Bagaimana? Bagaimana signifie comment? Ceritanya? Ceritanya signifie l'histoire. Bagaimana ceritanya, Bu? Bagaimana ceritanya, Bu? Signifie comment est l'histoire, madame? Batu. Batu signifie la pierre. Dianggap. Dianggap signifie prise en compte. Sakral. Sakral signifie sacré. Masyarakat Bouton. Masyarakat Bouton signifie les Boutonnais. Konon. Konon signifie on dit. Menjadi. Menjadi signifie être. Tempat. Tempat signifie le lieu. Pertama kali. Pertama kali signifie première fois. Sultan. Sultan signifie sultan. Menginjakan. Menginjakan signifie marcher dessus. Kaki. Kaki signifie les pieds. Dans la conversation, vous entendez bagaimana ceritanya, Bu? Bagaimana ceritanya, Bu, signifie comment est l'histoire, madame? Dans cette phrase, il y a un mot interrogatif. Bagaimana? Bagaimana signifie comment? Le mot interrogatif bagaimana? Bagaimana signifie comment est utilisé pour poser des questions sur des événements. Dans cette phrase, l'expression bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Signifie « comment est l'histoire » est utilisé pour poser des questions sur l'événement selon lequel un lieu de la forteresse du palais de Bouton est devenu sacré en réponse aux informations du guide sur le caractère sacré de la pierre. Pour poser des questions sur l'événement, le mot « bagaimana »« bagaimana » signifie « comment » peut être suivi des mots « ceritanya »« ceritanya » signifie « l'histoire » ou bien « kisahnya » Kisahnya signifie l'histoire ou bien kejadiannya. Kejadiannya signifie l'incident. Écoutons des exemples d'utilisation de l'expression bagaimana. Bagaimana signifie comment pour poser des questions sur les événements dans une autre phrase. Adli.
Semalam ada pencurian di perumahan saya. Semalam ada pencurian di perumahan saya. Signifie hier soir, il y a eu un vol dans mon logement. Dina. Bagaimana kejadiannya? Bagaimana kejadiannya? Signifie comment c'est arrivé? Intan. Konon, candi ini dibangun dalam satu malam. Konon, candi ini dibangun dalam satu malam. Signifie on dit que ce temple a été construit en une nuit. Kiki, bagaimana kisahnya? Bagaimana kisahnya? Signifie comment est l'histoire? La forteresse du palais de Bouton est un fort défensif du sultanat de Bouton qui a été construit au XVIe siècle. Ce fort est situé à Baobao, l'île de Bouton, la province de Sulawesi du Sud-Est. Ce fort est également connu sous le nom de Fort Waliyo. Le mot Waliyo signifie un groupe ethnique qui habite aux régions de Bouton et Baobao, Sulawesi du Sud-Est, ou la langue parlée par la tribu Waliyo. Avant de terminer, parlons l'indonésien d'aujourd'hui. Écoutons encore une fois la conversation.
Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Bouton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Bouton menginjakan kaki.
Chers amis, voilà l'émission de Parlons l'Indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir!
Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku, manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk kenangan indah. Kau melukis aku. Lembaran foto hitam putih, kembali teringat malamku. Hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelap. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson croncheon intitulée Bunga en grec, chantée par Endah Laras avec le Swastika Croncheon Orchestra. Chers auditeurs, cette chanson créée par le regretté compositeur Ismaël Marzuki est également sortie en version néerlandaise sur le titre Als de Orchiden Bloeien. Cette chanson a été chantée à plusieurs reprises par plusieurs musiciens et chanteurs tels que Hedy Gusendam et Henry Rotinsulu. Cette chanson raconte l'histoire d'un amour qui s'est terminé à cause d'une trahison. Les paroles émouvantes de la chanson racontent l'histoire du regret, de la déception d'un amant qui a été abandonné par son partenaire après avoir promis d'être ensemble pour toujours. Cette chanson captive les auditeurs avec sa mélodie déchirante et ses paroles touchantes, exprimant des sentiments de tristesse et de perte dus à un amour terminé. Monsieur Jeter, voici la chanson croncheon intitulée Bunga en grec, chantée par Endah Laras avec le Swastika Croncheon Orchestra. Bonne écoute.
Aku ingat
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.